Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier, sur Alliance Plus, fréquence 103.1 à Nîmes, et que l'on peut écouter sur internet sur le site www.fmplus.org. Aujourd'hui dans Jardin d'Isis, je reçois Bernard Poulain, poète lauréat, membre de la Société des poètes français, à l'occasion de son dernier recueil, Cris et apaisement. Bonjour Bernard.
Bonjour Marie-Agnès.
Alors, Cris et apaisement est un ouvrage qui vient se poser sur la douceur ou l'amertume du comportement humain, sur ce mystère inexplicable qui conduit à la déchéance ou au génie. L'écriture subtile et élégante de Bernard Poulain vous entraînera, grâce à ces mots bien choisis, dans les méandres complexes de l'homme et de ses mystères, et vous serez ébahi ou révolté, comme l'autre, partant de grandeur ou de décadence. Cet ouvrage est à la fois le calme et la tempête. Et c'est une postface signée par Claude Prouveau, qui est le président de Flamme Vive. Donc, ce qui nous amène à parler de la maison d'édition, et je te demanderai également les autres recueils déjà parus.
Voilà, Cris et apaisement est mon quatrième recueil. Il se différencie des autres parce qu'il est essentiellement en forme classique. Le précédent, Instant volé au temps, était composé d'aphorismes et de pensées brèves.
Donc toujours dans la collection
Flamme Vive. Les quatre ont été à Flamme Vive, oui.
Alors depuis quand es-tu passionné d'écriture, Bernard ?
Écriture, il y a relativement peu de temps. Un peu avant la retraite, et c'est une activité qui demande du temps, et j'ai maintenant le temps d'y consacrer ce qu'il faut y consacrer.
Mais tu étais déjà passionné de poésie.
Alors j'étais passionné de poésie, mais référent, c'est une évidence, Baudelaire, Verlaine, mais aussi Peggy et la poésie anglaise. Mon père récitait beaucoup de poésie anglaise et ça m'avait habitué à cette harmonie entre les mots et leur musique. Je ne comprenais pas le sens, donc c'était plus la musique qui m'habitait à ce moment-là. Ainsi que Brassens, Brel, Ferré, dont je connais les textes quasiment par cœur.
Oui.
Et c'est une harmonie parfaite entre des mots et la musicalité des mots et celle de la musique. Pour moi, la poésie, c'est jouer avec les mots.
Oui.
C'est créer ce que j'appelle une couronne de mots,
oui,
avec des mots simples. J'essaie d'éviter les mots abscons, les mots obscurs. Un poème, pour moi, c'est une goutte d'eau sauvée du désert des sables de la mémoire et qui se perpétue dans la graine étonnée de grandir. C'est apprendre à vibrer aux graines semées par la beauté, le temps, la vie, interrogeant le pourquoi d'être là, le comment et l'après. Du fleuve de la vie, triant les jours glorieux, en refusant qu'il s'estompe dans le sable de la mémoire, en tresser une couronne de mots inaltérable au temps. C'est le devoir sublime de la poésie.
Bon, ça, ce sont des vers que tu as écrits, un poème, couronne de mots. Tu souhaitais nous lire l'extrait d'un poème de William Blake également, je crois.
Oui, qui résume aussi ma vision de la poésie. C'est un poème anglais que j'ai traduit. To hold the world in a grain of sand. Voir le monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur sauvage. Tenir l'infini au creux de sa main et l'éternité dans une heure. William Blake.
Donc pour en revenir à ton recueil, Cris et apaisement, il est écrit selon une mouture plutôt classique. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce mode d'expression ?
Disons que le classique m'attirait par rapport à la référence Baudelaire, bien entendu, mais je n'en maîtrisais pas toute la difficulté et toutes les subtilités des règles de la prosodie. Et j'ai eu la chance, dans une association poétique, Flamme Vive et les Poètes Français, de rencontrer quelqu'un qui est devenu un ami, Jean Morezin, qui, à distance, par Internet, a eu l'amabilité de me faire avancer dans le droit chemin et de corriger et de m'obliger à améliorer mon respect des règles. Et j'avoue, j'en ai tiré une satisfaction extrême.
Donc, le recueil de Bernard Poulain est divisé en 6 parties. Nous allons suivre le cours de ces chapitres pour découvrir son champ poétique. Il dit « Cri et apaisement portent la terrible contradiction d'un monde pris entre l'horrible et le sublime. Ce recueil se veut un cri contre l'intolérable, mais il est aussi un diapason d'instants choisis, tristes ou gais, récents ou lointains, vécus ou rêvés, moments privilégiés, conduisant à l'apaisement. » Donc nous abordons le premier chapitre, cri. C'est un peu une poésie d'engagement.
Je dirais pas engagement, plutôt témoignage. La première partie est très marquée par les soubresauts du monde aujourd'hui, les réfugiés, ceux qui meurent dans la Méditerranée et les attentats, bien sûr.
Donc allons à la découverte d'un premier poème, Permis de tuer.
Aujourd'hui, il me faut courir après la rime, en voulant simplement hurler après un crime. Devant autant d'horreurs, peut-on faire un bilan, Charlie, Hypercacher, Tunis ou Bataclan?
Car la liste sans fin, trop longue litanie, montre de notre temps la bêtise infinie. Chaque prétexte est bon pour tuer sans détour. Musulmans et chrétiens, chacun aura son tour.
Peut-on parler de vous sans être vos complices? Mais peut-on ignorer vos méfaits, vos supplices? Nul ne vous a donné le permis de tuer, distribuant la mort, celui de statuer.
Qui doit quitter ce monde aux beautés éclatantes, devenu un charnier, aux noirceurs indécentes? Quand vous assassinez en sinistre bourreau, pourrait-il émerger des réflexes moraux?
Sans avoir d'autre but qu'un tir à l'aveuglette, que cherchez-vous vraiment, tirant sur la gâchette, quand tombe devant vous l'humain agonisant? Pour vous, c'est un spectacle, hélas, réjouissant, avec perversité d'exhumer tous vos crimes, montrant au monde entier la mort de vos victimes, de voir le sang couler, leur corps inanimé. Vous êtes de l'enfer les gardiens proclamés.
Despotes assassins sans aucune culture, vous vouliez empêcher toute caricature? Mais de quel droit? Enfin, pourriez-vous régenter mon besoin de penser, créer pour exister?
Les Bouddhas de Bamiyan sont devenus poussière, malgré du monde entier les ardentes prières. Vous niez le passé, comble d'absurdité. Votre idéologie est amoralité.
Vous avez mis à bas les statues de Ninive, détruisant à Mossoul la plus ancienne archive. Vous avez oublié toute réalité. Vous tuez, détruisez sans culpabilité.
Une mosquée enfin fut aussi votre cible. Vous répandez partout un dégoût indicible. Vous vous croyez puissant. Vous vous croyez soldat en brûlant une église avec vos armadas. Et ne me dites pas que votre guerre est sainte. Rangez vos drapeaux noirs. Nous n'avons pas de crainte. Vous tuez au hasard l'innocent désarmé, car l'esprit du courant, par vous, est déformé.
Nul ne se couchera devant autant de haine, car en bourreau pervers, vous n'avez âme humaine. Nous croyons à l'amour, à la fraternité, seul accès au bonheur pour notre humanité.
Thank you.
Dans cette deuxième partie, Bernard Poulain, cette deuxième partie s'appelle « Poète, hasard ou vérité ?» Car le poète est seul à jeter sur la page des mots abandonnés comme pas sur le sable, des mots vite effacés comme sable au rivage. Nous allons écouter un poème, « Hasard », en remerciement à Jean Morezin.
Voilà, ce texte un petit peu humoristique se moque gentiment du poète amateur que j'étais, que je suis encore, dans sa difficulté à accorder les règles de la prosodie classique à ses idées créatives. Au grand jeu du hasard, en un plaisir exquis, je tire au sort les mots pour écrire un poème. Sont-ils bien disposés et dans l'ordre requis, sauf s'ils sont dissonants, tels qu'ils sont, je les aime.
Sache choisir l'idée, alors viendront les vers. Pense bien à la règle, à celle d'alternance. Veille à l'étourderie et ses effets pervers. Dans la fluidité, maîtrise l'assonance. Les mots ne suffisent pas, car il n'est rien, vois-tu, s'il ne s'exprime pas en pure poésie. M'a dit l'appel en moi qui trop longtemps s'est tu, mets de l'ordre en tes mots, en rythmique choisie.
Condamne le hiatus, pense à l'élision. Tout cela est la clé de juste prosodie. Mais intégrer le tout me semble illusion. J'ai peur que mes versets ne soient que parodies.
Sois aussi vigilant, en comptant bien tes pieds, au fameux « e » muet, aux règles de césure, en refusant toujours les versets estropiés. File la métaphore, oubliant la censure.
Enrichis bien l'idée au lieu de l'affaiblir. Triture l'alphabet, choisis le synonyme. La beauté de ton texte, il te faut l'anoblir et que toujours le sens se marie à la rime.
Mais il se peut parfois, malgré un bel effort, que l'erreur s'insinue, un défaut de technique. Un dictionnaire alors sera d'un grand renfort, faisant vibrer tes mots que chante ta musique.
Tu dois montrer surtout l'originalité d'un thème répondant aux soubresauts du monde, en écoutant, bien sûr, ta sensibilité, me dit encore la voix qui, de conseil, m'inonde.
Je ne sais si mes vers ont quelconque valeur. J'espère que par eux un peu d'amour essaime. Aideront-ils quelqu'un à sortir du malheur? Mais face à ces tourments, que pèse mon poème?
Cherchant le sens des choses lorsque j'écris cela, je n'en espère pas grande métamorphose. Le présent, le futur, la vie et l'au-delà resteront pour nous tous sujet de vaine glose.
Maintenant le troisième chapitre, instant de grâce. Et tout se justifie dans la promesse du don, de la beauté des choses. Est-ce que tu veux bien nous parler de cette beauté?
Alors, pour moi, la beauté, c'est d'abord apprendre à observer la nature, enfin tout ce qui peut correspondre à la notion de beau, de beauté. Et pour moi, la beauté est très supérieure à la pure, à la seule esthétique. Elle a une dimension presque philosophique, car elle conduit à l'élévation spirituelle. Je rappellerai juste la phrase de Dostoïevski, « La beauté sauvera le monde ».
Nous allons vous lire un extrait d'un poème Farandole qui est une farandole de fleurs.
La campagne au printemps est un vibrant mystère. Quand d'un sol écrasé aux froidures d'hiver, surgit un arc-en-ciel qui recouvre la terre de milliers de couleurs sur un grand tapis vert.
Chaque fleur est un hymne au réveil de la vie. Tout se métamorphose imperceptiblement. Jusqu'au bout de nos sens pétille notre envie. On ne voit rien grandir, tout pousse doucement.
Dès que la neige fond, perce la prime vert. Dans la discrétion et les premiers jalons, sur la terre assoupie après un froid sévère, du défilé sans fin, égayant le vallon.
Dès les frimas de mars, les magnolias précoces, rappelant un passé qui revient pas à pas, sur leurs bras dénudés, posent leurs grands calices. Les sous-bois éblouis exposent leurs appâts.
Instant de pure extase au jour qui s'illumine, un air de renouveau suit le gel hivernal. Un doux ravissement au fond de soi culmine, face au jaillissement du sursaut germinal.
Le forsythia jauni de flèches flamboyantes émerge des buissons surpris de son éclat, éclipsant le soleil aux ardeurs hésitantes. Janvier est achevé, le printemps presque là.
Sous l'ample voûte mauve aux grappes élancées, sculptée sur le fond clair d'un ciel enfin bleuté, distillant son parfum de senteurs enlacées, ce rêve de glycine et promesse d'été.
Puis vient le cerisier, dont les frêles pétales tremblent au moindre vent. Leur sublime blancheur se disperse aussitôt sous le fouet des rafales, car aux ides de mars perdure la fraîcheur.
La rose est sans pourquoi dans sa magnificence, n'ayant rien à donner, si ce n'est sa splendeur. Elle étonne toujours par sa belle élégance, fière de sa beauté, sans aucune pudeur.
Si belle es-tu la rose, inattendu mirage, ignorant qui tu es dans ta perversité, caresse de velours que l'amour donne en gage, épines torturant le galant dépité.
Les cloches dans les bois sonnent à la volée. Pour ce regain vital, le grain meurt, fatigué. La campagne renaît, de blanc auréolé. Vive le 1er mai, on cueille le muguet.
Les genêts buissonnants à la tige effilée s'ornent de gros bourdons, préparant leur envol. Leur carène dorée, à l'apparence ailée, attire un papillon dansant d'un désir fol.
Thank you.
ce quatrième chapitre s'appelle Nostalgie. On constate que ta nostalgie se nourrit d'éclats radieux.
Oui, ce n'est pas une nostalgie chargée de regrets, c'est plutôt une nostalgie chargée d'espérance.
Oui, alors ce dernier poème est plein d'espérance, effectivement. C'est un sonnet, Dernier soleil.
J'y tiens beaucoup, il a été lu aux obsèques récemment d'un très bon ami. Je lui dédie à nouveau ce texte. Dernier soleil. Le soleil se dissout à l'éclat radieux dans le calme apaisant de la douceur d'automne. L'azur éblouissant, un chant d'amour entonne quand ses derniers rayons décochent leurs adieux. Je voudrais, au moment de tutoyer les cieux, devant tant de beauté que mon âme chantonne, il faudra bien pourtant que mon corps s'abandonne afin d'aller soumis, habiter chez les dieux. Suppliant la beauté de doter mon dernier doute, j'aimerais prolonger encore un peu ma route pour contempler ce feu dans son dernier atour. M'avançant doucement dans une paix profonde, je vibrerai serein aux couleurs alentour. Lentement, mon esprit rejoindra l'outre-monde.
Le cinquième chapitre nous entraîne vers des rêveries, dans une ambiance de vent, de danse, de beauté. Alors, le poème que nous allons découvrir a une histoire et il s'appelle « Au firmament ».
Voilà, ça illustre un peu le processus créatif pour ceux qui se posent souvent la question « Mais d'où tu sors toutes ces idées ?» Pour ce poème-là, j'avais vu une reproduction d'un tableau qui représentait le ciel étoilé, et le peintre avait relié des étoiles qu'il avait judicieusement disposées sur le tableau avec des traits pour dessiner un contour de corps de femme.
Au firmament.
Par une sombre nuit, sous la froideur nocturne, scintillait un signal sous la voûte des cieux. Imperceptiblement se mirent dans mes yeux des étoiles traçant une image diurne.
Dans le vide absolu, là-haut, au firmament, dans le marbre du temps à tout jamais gravé, le ciel a dessiné, discrètement lové, l'ébauche d'un portrait au visage charmant.
L'éther n'est plus alors qu'une esquisse de femme, le contour d'un tableau, tracé d'un corps fictif, un buste de déesse, à l'aspect distinctif, nous ouvrant de l'amour, l'inattendu sésame.
Les astres, tournoyants, me mettent en émoi, devant le net contour de l'icône nappée entre Orion, Pluton, Mars et Cassiopée. L'appel de ce grand corps résonne au fond de moi.
Ne croyez point que ce soit rêve. Je l'ai bien vu au firmament.
Thank you. pour terminer le recueil, nous avons cette sixième partie qui est consacrée à l'enfance au bord du soir.
Le temps d'alors. Qu'ai-je gardé de mes printemps quand, infini, semblait le temps, les rires francs, le goût d'errance, c'était au temps de mon enfance. Du temps défunt j'ai souvenir, comme d'un temps plein d'avenir, c'était au temps de l'inconstance, j'eus toujours soif d'être en partance. J'étais joueur, vieux batailleur, cherchant toujours à être ailleurs, grand voyageur, chasseur d'étoiles, toujours prêt à hisser les voiles. Je croyais bien sous mes élans pouvoir revivre au moins 1000 ans. Les cris, les jeux dans ma jeunesse étaient pour moi seule promesse. Qu'ai-je gardé du temps d'alors? Le souvenir d'un âge d'or, les rires francs et mon errance étaient le prix de l'insouciance. Au jour béni du temps jadis, la vie était le paradis. D'y retourner, j'ai l'espérance, j'ai toujours soif de mon enfance. Mais pourquoi donc coulent les ans?
Mon père tenait dans sa main toutes les forêts familières. Mon père tenait dans sa main toutes les boucles des chemins. Et les cheveux de la rivière, pour faire un cheval à crinière, un cheval à d'écume et de blé, aux jeunes filles de l'été. Loin derrière et plus loin devant, la terre à la couleur du vent. Dans les jardins plantés en pente, les oiseaux sont des fleurs volantes. Mon père tenait dans sa main toutes les lampes des chaumières. Mon père tenait dans sa main l'ombre soyeuse des sapins et la fraîcheur bleue des clairières, où tresser la mousse et le lierre afin d'en faire des colliers aux jeunes filles de l'été. Loin derrière et plus loin devant, la terre à la couleur du vent. Dans les jardins plantés en pente, les oiseaux sont des fleurs volantes. Mon père tenait dans sa main toutes les sources de la terre. Mon père tenait dans sa main l'étoile froide des matins et des maisons ventre de pierre. Un chant s'élevait sur la terre, montait des eaux, montait des blés jusqu'au cœur brûlant de l'été. Loin derrière et plus loin devant, la terre à la couleur du vent. Dans les jardins plantés en pente, les oiseaux sont des fleurs volantes. Loin derrière et plus loin devant, la terre à la couleur du vent.
Luc Bérimont en chanson. Maintenant, revenons à mon invité d'aujourd'hui, Bernard Poulain. Merci Bernard. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut se procurer ce recueil, donc Crier apaisement?
Oui, sur le site de Flamme Vive, www.flammevive.com.
C'était Jardin d'Isis sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier. Également, on peut écouter les émissions ou les réécouter sur les podcasts de FM+, en allant sur émissions. Et je vous donne rendez-vous pour le deuxième et troisième jeudi du mois, de 12h15 à 12h45 et de 18h10 à 18h40.